Nous allons maintenant nous intéresser au fonctionnement d'une centrale à vapeur. Je précise que nous n'étudierons qu'une version simplifiée du cycle utilisé dans les centrales électriques en service dans de nombreux pays dans le monde. Dans la première vidéo, vous avez pu découvrir une animation qui explique schématiquement comment fonctionne une telle centrale. Ce schéma montre qu'elle met en jeu quatre composants: une pompe, une chaudière, une turbine, généralement couplé à un générateur électrique, et un condenseur. Je vous rappelle que le fluide de travail est de l'eau. Ce cycle permet de convertir de la chaleur à haute température en travail sur l'arbre moteur de la turbine. On parle de cycle moteur. On parle ici à juste titre de cycle parce que, parcourant successivement les quatre composants de la centrale, le fluide de travail subit une série de transformations qui l'amènent à se retrouver dans son état initial. Plus précisément, il s'agit d'un cycle à combustion externe permettant d'utiliser dans la chaudière une grande variété de combustibles, dont l'uranium. Étudions comment fonctionne un tel cycle et quelles valeurs peuvent prendre ses paramètres. Au point 1, l'eau entre dans la pompe à l'état liquide et à très faible pression. 1/30 de bar environ. Elle y est comprimée et en sort au point 2 à une pression voisine de 128 bars, toujours à l'état liquide. Dans la chaudière, un combustible, solide, liquide ou gazeux, est brûlé, générant ainsi des gaz chauds qui sont refroidis par le fluide de travail, à savoir l'eau. En restant à peu près à la même pression, l'eau passe de l'état liquide au point 2 à celui de vapeur surchauffée au point 3, où elle est portée à la température de 447 degrés Celsius. La vapeur surchauffée au point 3 est ensuite détendue dans une turbine à vapeur, ce qui permet de produire du travail moteur sur son arbre. Elle sort au point 4, à la basse pression du cycle, sa température redevenant égale à 27 degrés Celsius. Son état correspond à un mélange de liquide et de vapeur, appelé état diphasique, car il y a deux phases. La vapeur sortant au point 4 de la turbine est ensuite totalement liquéfiée au point 1 par refroidissement dans le condenseur. La pompe remet ensuite l'eau à la pression de la chaudière au point 2. Précisons que le refroidissement du condenseur est assuré par une source froide externe, généralement l'air extérieur ou l'eau d'un fleuve ou de mer. Comme vous le constatez, le circuit du fluide de travail comporte deux parties à des pressions différentes. La haute pression HP de 128 bars au niveau de la chaudière et la basse pression BP de 0,0356 bars au niveau du condenseur. Il s'agit d'une caractéristique commune à tous les cycles que nous étudierons. Ils mettent en œuvre deux niveaux de pression, les pompes et compresseurs faisant passer le fluide de travail de la BP à la HP et les turbines et détendeurs de la HP à la BP. Présentons maintenant brièvement les technologies mises en œuvre dans les composants de cette centrale à vapeur. La pompe est généralement du type centrifuge, multi-étagée, car elle doit réaliser un haut rapport de compression, de l'ordre de 3600 avec notre paramétrage. Dans les centrales électriques à flamme classique, les conditions de sortie chaudière sont de l'ordre de 560 degrés Celsius et 165 bars, conduisant à un rendement thermodynamique voisin de 40%, mais dans certains cycles dits supercritiques, ces valeurs peuvent atteindre 325 bars et 600 degrés Celsius. Dans la filière réacteur à eau pressurisée ou REP des centrales nucléaires actuelles, la haute pression et la température de la vapeur sont limitées pour des questions de sécurité et ne dépassent guère 60 bars et 275 degrés Celsius. La chaudière d'une centrale à flamme classique remplit trois fonctions successives et se comporte donc comme un triple échangeur de chaleur. Elle doit tout d'abord chauffer l'eau d'alimentation pressurisée jusqu'à la température de vaporisation à la pression correspondante. On appelle économiseur l'échangeur de chaleur qui remplit cette fonction. La chaudière doit ensuite vaporiser l'eau et enfin la surchauffer à la température désirée. Les turbines à vapeur sont pour la plupart des turbines axiales multi-étagées. Le condenseur est un échangeur dont la particularité est de travailler en dépression par rapport à l'atmosphère, compte tenu de la faible pression de saturation de l'eau à la température ambiante. Ce premier aperçu du fonctionnement d'une centrale à vapeur nous a permis de voir que ce cycle met en jeu trois types de composants. Une pompe qui comprime le fluide de travail, des échangeurs de chaleur qui chauffent ou refroidissent le fluide de travail et une turbine qui détend le fluide de travail. Le cycle de la centrale à vapeur peut ainsi être décomposé en quatre fonctions successives. Comprimer le fluide de travail, le chauffer à haute température, détendre le fluide de travail, le refroidir dans l'état initial. Dans tous les cycles moteurs, on retrouve ces trois premières fonctions se succédant dans cet ordre. On comprime, on chauffe et on détend.